Bernard Hébran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Invesco AM. On va parler avec vous des marchés, des perspectives sur ces marchés. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a pu voir sur ces marchés, des réactions de marché qui vous ont intéressé ou frappé, je dirais, durant l'été ?
Il y a eu beaucoup de mouvements différents, intéressants et frappants, effectivement, un peu partout dans le monde, à commencer par les États-Unis, où les marchés semblent absolument inarrêtables jusqu'à présent et continuent à progresser. Jour après jour et atteindre de nouveaux plus hauts. En Europe, on a une situation bien différente où les marchés européens n'atteignent pas de nouveaux plus hauts, mais pour bon nombre d'entre eux, continuent à souffrir, avec des très très fortes disparités. Ça, c'était frappant aussi durant l'été, entre les différents secteurs européens, et même d'une valeur à l'autre, des très très fortes disparités, des fortes hausses et des fortes baisses, tout ça dans le même été. Et puis, vraiment la montée d'une lame de fond d'aversion pour tout ce qui est marché émergent. Que ce soit du côté action, du côté obligataire ou du côté devise, on a vraiment une contagion qui s'est propagée de pays en pays et qui a gagné à la fin de l'été l'ensemble de la classe d'actifs émergente.
Donc là, c'est ce qu'on a vu commencer par la Turquie avec la baisse de la lire turque. On a vu l'Argentine et c'est ce qui s'est passé sur ces pays-là a, je dirais, entre guillemets, fait peur aux investisseurs. Et du coup, l'actif marché émergent a eu un impact.
Exactement, on avait le Venezuela qui était quand même très problématique depuis un bon moment et qui est un très gros émetteur sur les marchés de dette, hein, marché obligataire émergent, c'est important. Et puis on a eu l'Afrique du Sud aussi qui était un peu un pays qui donnait confiance à beaucoup d'investisseurs depuis des années et qui là a posé de grandes interrogations. Donc voilà, on a un certain nombre de briques un peu dans toutes les régions émergentes qui sont tombées et sur les marchés actions également, les marchés chinois en particulier qui ont beaucoup beaucoup souffert. Et donc cette contagion est continue, même si dans beaucoup de cas, on a pour certains nombres de pays des raisons très très bien identifiées, de solvabilité en particulier, et puis pour des pays comme en Asie par exemple, on n'a pas de problème identifié, on a juste une espèce de sentiment adverse aux émergents qui s'installent et qui continue à les pénaliser.
Donc là, on a eu plus un phénomène de flux, comme on dit, de retrait, effectivement, sur ces marchés-là, sans que les marchés soient remis en cause.
Exactement.
Pour les États-Unis et pour l'Europe, on a effectivement deux questions aujourd'hui. C'est ce qui se passe sur la politique monétaire. Alors, du côté des États-Unis, on avait quand même eu des messages un petit peu différents entre la réserve fédérale américaine et puis le président américain, on le sait. Est-ce que les investisseurs, de votre point de vue, regarde la Fed uniquement, parce qu'on pourrait dire qu'ils peuvent regarder aussi Donald Trump qui, par ses tweets, parfois peut faire bouger les marchés.
Alors, on peut par exemple distinguer la Turquie, où le président de la République dirige la Banque centrale et la politique monétaire, et d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique, où a priori la Banque centrale est indépendante du président, en tout cas entre deux nominations, puisque c'est le président qui nomme le gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, le gouverneur de la Réserve fédérale a beaucoup de temps devant lui. La Réserve fédérale américaine annonce sa politique de hausse des taux et de sortie de l'assouplissement quantitatif depuis maintenant des années. Et ils suivent leur carnet de route depuis des années maintenant. Et ils n'ont pas l'air, de se remettre en cause suite à quelque intervention que ce soit du président. En revanche, là où il y a des influences, effectivement, des tweets en question, c'est plus du côté, de l'autre côté, en fait, du côté des émergents, et où toutes les déclarations sur tel ou tel épisode de la guerre commerciale pénalisent à chaque fois un peu plus les marchés émergents.
Donc il y a aussi ces déclarations, et puis après, il y a le concret. Est-ce que, si on prend par exemple la Chine, est-ce que les 200 milliards qui ont été mentionnés vont être vraiment taxés, et l'impact, et la réponse de la Chine, bien entendu. Donc il y a toujours un effet d'annonce. Et puis ensuite, on regarde de près ce qui se passe et quels sont les secteurs ou les sociétés touchées.
Voilà. Alors ça, c'est important, effectivement, parce qu'au niveau, au niveau agrégé, au niveau vraiment macroéconomique des croissances mondiales, l'effet de ces baisses de commerce qu'on peut attendre est tout petit et assez négligeable. En revanche, effectivement, au niveau d'un certain nombre de secteurs, au niveau d'un certain nombre de sociétés, ça peut être assez significatif. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a vu des décrochages assez sévères durant l'été. Alors de sociétés émergentes, mais aussi d'un certain nombre de sociétés cotées en Europe qui sont des fortes exportatrices vers les États-Unis. On pense évidemment à l'automobile, à l'acier, aux matériaux de base, etc. Et là, de ce côté-là, de manière assez ponctuelle, on peut avoir des conséquences significatives.
Il y a un sujet qui revient aussi. On parlait des banquiers centraux. C'est la divergence entre où en est aujourd'hui la Réserve fédérale américaine et où en est aujourd'hui la Banque centrale européenne. Je parlais avec un interlocuteur ici même de la Bundesbank, la Buba, la fameuse Buba, que les boursiers connaissent, les vieux boursiers connaissent bien. Est-ce que cette divergence peut à un moment donné inquiéter les investisseurs? Parce que là, on va avoir quand même des écarts significatifs.
Alors on a vraiment un écart qui se creuse déjà depuis longtemps, c'est l'écart des taux d'intérêt entre les taux américains qui montent, hein, les taux de court terme américains qui montent. On a un 2 ans qui est aujourd'hui aux alentours de 2,5%, hein, c'est quand même beaucoup pour de l'emprunt d'État. En Europe, on n'est pas exactement là encore. En Union européenne, dans la zone euro, on reste en négatif sur les taux monétaires, ça ne change pas. Et tout ce qui change, en fait, ce sont les perspectives à un moment de contraction du bilan de la Banque centrale. Et donc, en Europe, en zone euro, les perspectives de hausse des taux restent vraiment très très lointaines. On n'a rien eu au niveau des courts termes et même au niveau des taux obligataires pour le moment pendant l'été. Seul petit bémol à ça, au niveau du marché obligataire, c'est sur l'Italie, pour des raisons complètement indépendantes de la Banque centrale, où on a eu des craintes et on a toujours des craintes sur le budget, du gouvernement italien qui n'est toujours pas encore annoncé à l'heure où nous parlons.
Pour les investisseurs, aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, quels sont les choix? Parce qu'on sait bien que dans ces périodes de taux très bas, il y a eu peut-être un peu plus de flux sur les actifs risqués, mais ça ne peut pas forcément durer éternellement. Quand vous rappeliez le marché pratiquement sans baisse, marché américain, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette période-là pour se protéger des risques que peut-être on ignore aujourd'hui?
Alors déjà, il faut garder en tête que nous parlons au milieu du mois de septembre, qui est traditionnellement le moins bon mois, voire le plus mauvais sur les marchés financiers. Donc en termes de saisonnalité, on n'est pas forcément pressé d'investir tout de suite. En revanche, on arrive dans une période qui peut être sympathique, qui est la fin d'année, premièrement, qui est deuxièmement une saison des résultats du troisième trimestre qui s'annonce à nouveau bonne. On a souvent des prévisions des analystes et des annonces préalables des entreprises cotées qui font souvent diminuer les attentes. Et là, on n'a pas eu ça. Donc, on a vraiment et des analystes et des entreprises qui ont l'air très confiantes. On peut encore s'acheminer vers une belle tenue des bénéfices des sociétés. Si on regarde en Europe, sans aller très loin de chez nous, on regarde en Europe, on a des marchés qui sont quand même généralement dans le négatif, dans le rouge sur l'année 2018. On a des bénéfices qui, en moyenne pour l'Europe, sont en hausse de 9%, ce qui est quand même significatif. Pour le dire autrement, 9% de hausse des bénéfices, une petite baisse du prix des actions, ça veut dire qu'on a des actions qui sont moins chères aujourd'hui. À un moment, c'est peut-être intéressant d'en profiter pour un éventuel rallye de fin d'année.
Voilà, pour l'investisseur qui, par contre, se dirait que les États-Unis, là, le parcours qui a été fait, ça va être difficile, même si on ne peut pas lutter contre les marchés, contre la hausse en tout
C'est-à-dire
cas.
qu'aux États-Unis, on continue à avoir des beaux résultats. Et assez bizarrement, les sociétés cotées aux États-Unis sont plutôt un peu moins chères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en début d'année, à nouveau, parce que les bénéfices ont beaucoup plus monté que le prix des actions.
Et on arrive quand même à faire la distinction entre les montants astronomiques de rachat d'actions et la réalité de la situation, sur la valorisation. On arrive à faire la différence?
Alors, premièrement, les rachats d'actions, ils sont réels, c'est-à-dire qu'il y a moins d'actions en circulation en permanence. Ensuite, il y a vraiment des. On peut regarder. Souvent, on se concentre sur les bénéfices, mais on peut aussi regarder le chiffre d'affaires, simplement, où là, on n'a pas du tout ces effets de rachat d'actions. Et eux aussi, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Eux aussi, ils sont très fermes aux États-Unis et en Europe également. Donc, on a une demande, pour le dire autrement, une demande réelle de biens et de services qui est là, en plus de tous les effets comptables et financiers des rachats d'actions. Donc, on a des fondamentaux qui sont aussi au rendez-vous pour le moment, et on n'a pour le moment pas de signaux avant-coureurs d'un coup d'arrêt brutal à tout ça.
Merci Bernard Hébron.